Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue de nouveau à l'écoute de Mélomanie, alors que le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale sort lui aussi du confinement. Enfin, nous retrouvons le grand studio de Radio Présence pour reprendre le cycle de nos émissions après une longue parenthèse de 8 semaines et nous en sommes très heureux, mais j'entends déjà des objections. De l'actualité musicale, il n'y en a plus. Et en effet, les salles de concert et d'opéra sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors, me direz-vous, de quoi allons-nous pouvoir parler dans cette émission ? Il y avait plusieurs options, mais pour ce numéro de reprise, nous avons choisi d'évoquer les musiciens et les œuvres que nous aurions dû entendre à cette période de l'année si la crise sanitaire n'était pas passée par là pour nous priver du plaisir de les écouter en live, une manière de renouer avec les saisons musicales et lyriques que nous offre notre région, sachant qu'elle devrait reprendre dans quelques mois et que plusieurs des concerts n'ayant pas eu lieu au printemps ont déjà été reportés à l'automne. La musique continue et je sais qu'elle a été un réconfort précieux pour beaucoup d'entre vous durant cette période de confinement. Nous allons encore la faire entendre lors de cette émission où j'ai l'immense plaisir de retrouver Serge Chosy, co-fondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre. Deux érudits, deux vrais passionnés. Nous allons tout de suite parler des événements musicaux qui étaient programmés fin avril et début mai pour un virtuel retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et il était difficile de commencer cette émission de reprise sans parler de notre cher Orchestre National du Capitole, désormais silencieux depuis le début du mois de mars. L'ensemble symphonique toulousain devait donner un concert à la Halle aux Grains le 25 avril, concert dans le cadre du cycle Happy Hour. Il aurait été dirigé à cette occasion pour la première fois par le jeune chef hongrois Gábor Kali. Ce sera sans doute partie remise le concernant. Le programme avait été intitulé Happy Hour avec la magie, un titre qui suffisait à nous mettre l'eau à la bouche avec un programme aussi original qu'alléchant. Quelles étaient les œuvres et les compositeurs au menu de ce concert, Serge Chosy?
Eh bien, donc, ce jeune chef d'orchestre hongrois, dont il faut préciser qu'il a quand même été lauréat en 2018 du prestigieux concours de jeune chef de Salzbourg. Donc, c'est vraiment un jeune chef qu'on espère revoir à Toulouse. Enfin, voir d'ailleurs à Toulouse, puisqu'on n'a pas pu le voir lors de cette fictive première venue. Et donc, il devait diriger trois œuvres pendant cette heure heureuse, comme elle est qualifiée ici. Une œuvre de Mendelssohn d'abord, du tout jeune Mendelssohn, qui est l'ouverture du Songe d'une nuit d'été, premier volet de la magie, puis la suite symphonique du Mandarin merveilleux de Béla Bartok, ballet dont il devait diriger la suite, et puis une autre suite, celle de L'oiseau de feu de Stravinsky, la version de 1919. Voilà les trois œuvres que Gábor Kali devait diriger, donc on regrette beaucoup de ne pas l'avoir entendu.
Oui, alors je pense vraiment que ce sera partie remise, un jeune chef prometteur, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas dans les années qui viennent, peut-être même dès la saison prochaine. Au programme donc de ce concert, il y avait L'oiseau de feu qu'on a entendu et réentendu souvent à Toulouse, joué par l'Orchestre National du Capitole. Mais il y avait deux autres œuvres qu'on entend moins souvent, notamment une, je pense au Mandarin merveilleux de Bartok. Peut-être un mot sur la musique de Bartok et sur cette œuvre. Et là, je vais me tourner vers Serge Krichewski, qui adore Bartok.
Oui, j'adore Bartok, effectivement. Très grand compositeur qui a su mettre en valeur l'orchestre, tous les pupitres, tout au long de sa carrière de compositeur. Je dois dire que je pense que tous les musiciens d'orchestre adorent ce compositeur, évidemment les chambristes aussi, mais à l'orchestre, c'est toujours une vraie fête de faire une œuvre de Bartok et on se réjouissait tous de faire cette pièce. Une pièce passionnante, bon, qu'on a eu l'occasion de jouer quelques fois, qui est donc la suite du ballet, d'un ballet qui fait environ 35 minutes, donc le Mandarin merveilleux, Acha Dalatosh Mandarin. Donc, ballet pantomime en un acte, c'est pas la mandarine merveilleuse, comme dit Google traduction. Le mandarin, ce mandarin qui vient d'un conte chinois, le livret a été fourni à Bartok, donc c'est une histoire assez sombre qui avoisine donc l'expressionnisme, le symbolisme, le surnaturel avec ce personnage du mandarin qui finit par mourir à la fin du ballet. C'est une histoire qui évoque aussi l'arrivée de Bartók à Budapest, c'est-à-dire le fracas des villes, lui qui venait d'un petit village de Transylvanie. Il était né en 1880, donc c'était un brillant pianiste, jeune prodige, bien qu'enfant assez fragile et solitaire. Quand il arrive à Budapest, il est fasciné par cette ville, et donc il aura l'occasion avec ce conte, ce scénario, d'écrire une sorte de réplique au Sacre du Printemps. Donc 5-6 ans après 1913, qui est la date du Sacre du Printemps, Bartók écrira un ballet vraiment somptueux, alors dans lequel d'ailleurs il adjoindra un chœur de féminin à la fin, je crois, mais qui n'est pas utilisé dans la suite. Voilà, il s'agit d'un ballet qui présente 7 personnages, donc 3 hommes qui sont les 3 souteneurs, 3 clients, et au milieu, une femme, une jeune fille, donc dans une ambiance trouble de maison de passe probablement. Là-dessus, donc, Bartók a été très inspiré, c'est une œuvre qu'il aimait particulièrement, qu'il est jugé réussie, et puis malheureusement, à la fin de sa vie, dans son exil américain, il semble que quand on lui parlait encore du Mandarin merveilleux, ça le réveillait, ça lui redonnait de l'énergie. Il a eu une vie qui malheureusement a suivi les événements de l'histoire de la Hongrie, événements beaucoup plus tragiques que n'ont été ceux de la Tchécoslovaquie, dont on parlera tout à l'heure. Mais donc Bartók, à peine la première guerre terminée, a un petit peu d'espoir, mais malheureusement, l'histoire de la Hongrie va s'assombrir beaucoup, et il va devoir émigrer, et il vivra la fin de sa vie aux États-Unis dans une peine croissante de ne pas pouvoir retourner en Hongrie.
Une chose intéressante, vous en avez parlé, c'est que cette œuvre fait un peu écho au Sacre du Printemps de Stravinsky, et il se trouve que dans ce concert était programmée aussi une œuvre de Stravinsky, pas le Sacre, mais l'Oiseau de Feu. Donc ça aurait été intéressant, je pense, de les entendre le même soir, par le même orchestre.
Oui. Alors effectivement, le thème de ce concert, bon, l'ouverture du Songe d'une Unité donnait déjà le ton, parce que c'est une ouverture effectivement, cette pièce de Shakespeare avec tous les elfes, tous les personnages comme ça de fées, et puis une ouverture qui est vraiment un coup de génie d'un compositeur très très jeune. Ensuite, le Mandarin merveilleux d'un compositeur déjà plus mûr, 38 ans à l'époque où Bartók compose le Mandarin. Et puis là aussi, pour Stravinsky, 1909, c'est une époque où Stravinsky est un peu plus jeune, mais c'est aussi un de ses premiers grands coups de maître pour Diaghilev. Il écrit cet Oiseau de Feu.
Eh bien, comme on a rarement l'occasion d'entendre le Mandarin merveilleux en concert, en tout cas à Toulouse, je vous propose d'en écouter un extrait, le tout début. Il s'agit d'une version de l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigée par Pierre Boulez.
Thank you.
le début du Mandarin merveilleux de Béla Bartok, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Pierre Boulez. Et Serge Chosy voulait indiquer quelque chose de très intéressant dans ce que nous venons d'entendre, et dans toute l'œuvre d'ailleurs.
Ah oui, quelque chose de très particulier, c'est que les personnages sont représentés et caractérisés par des instruments particuliers. Ainsi, la jeune prostituée, c'est la clarinette qui la représente. Le quatuor à cordes, lui, il représente les trois souteneurs. Et les cuivres, et principalement les trombones, c'est le mandarin lui-même, dans toute sa splendeur. Et puis c'est une histoire tout à fait émouvante, puisque ça s'achève par le massacre à coups de couteau du mandarin par les trois souteneurs, qui veulent le voler, mais il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas assumé, assouvi son désir pour la prostituée. Donc après l'avoir embrassé, tenu dans ses bras, là il peut mourir enfin. C'est une œuvre extraordinaire, une des trois œuvres que Béla Bartok a conçues pour la scène, puisqu'on connaît le château de Barbe Bleue qu'on a donné à Toulouse, hein, à l'opéra, au théâtre du Capitole, et le Prince de Bois, qui est aussi un autre ballet et qui a été joué magnifiquement par l'Orchestre du Capitole et d'ailleurs qui a été enregistré.
Alors, puisqu'on parlait de l'histoire et de ses protagonistes, bon, on voit que c'est une histoire qu'on pourrait qualifier de scabreuse. Ah, oui. On comprend pourquoi il a eu beaucoup de mal à la créer. D'ailleurs, il n'a pas pu la créer en Hongrie. Elle a été créée en Allemagne, à Cologne, 8 ans après sa composition.
En 26, voilà, c'est ça. Oui. Et elle n'a été créée en Hongrie communiste, qu'après la mort de Bartok, qui n'était pas mort en Hongrie, donc en 46. Donc effectivement, très tardivement. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du Sacre du Printemps. C'est une œuvre... Bon, le rythme est une dimension... prend une place très, très importante dans cette œuvre. Vous l'avez déjà entendu avec les stridulances du début de la ville sauvage, de le contexte dans lequel ça se passe. Mais il y a une dimension, peut-être, par rapport au Sacre du Printemps, moins abstraite, très, très ardente et humaine. Et lyrique, hein, peut-être très charnel, beaucoup plus charnel, évidemment, le sujet l'impose, mais ce thème de l'amant qu'on n'arrive pas à tuer, qui ne peut être tué qu'après l'amour, c'est une chose très étrange. C'est pour ça que j'ai parlé du surnaturel au début. Et alors, il faut juste noter aussi que dans les trois œuvres que Bartok a écrites pour la scène, il est toujours question d'un homme, la dramaturgie tourne autour d'un personnage masculin et d'un personnage féminin qui sont face à face et qui avancent ensemble et qui font un parcours ensemble, souvent tragique, dont Château de Barbe Bleue, effectivement, le Prince de Bois, voilà, et puis l'homme est face à son destin également, donc il y a une constante quand même dans ces trois œuvres qui sont splendides.
Alors, vous releviez l'aspect lyrique de cette musique. On va justement parler maintenant d'art lyrique et parler d'un contemporain du Hongrois Bartok. Bien que de la génération précédente, né tout comme lui dans ce qui s'appelait alors l'Empire austro-hongrois, le compositeur tchèque Leos Janáček, son opéra Yenoufa était programmé au Théâtre du Capitole du 7 au 16 mai. Les dernières représentations devaient d'ailleurs avoir lieu ces jours-ci. Janáček, tout comme Bartok, est un compositeur vraiment passionnant, enfin moi je trouve, hélas trop rarement joué aussi, et auquel vous êtes aussi très attaché, Serge Krichewski. Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous touche dans sa musique ?
Alors ben déjà, c'est vrai que mes origines slaves m'ont peut-être rapproché naturellement de ce compositeur. C'est vrai que j'ai très tôt, dès l'adolescence, été très attiré par ce compositeur. J'ai eu la chance d'entendre des œuvres à un moment où il était encore même peu joué. J'étais allé à Radio France écouter Guy Erismann le présenter. Et puis la première, probablement, en représentation à l'Opéra de Paris en français, avec Nadine Denise et dirigée par, je pense, Maqueras. Ensuite, il y a eu Katia Kabanova avec donc Nadine Denise. Alors, ben, compositeur extrêmement, là aussi, vivant, ardent, une sorte de Puccini d'Europe centrale, enfin un compositeur qu'on apprécie tous beaucoup maintenant, qui est très difficile à interpréter. Effectivement, comme vous le disiez, il est né donc en 1854, un peu moins de 30 ans avant Bartok, et il est mort aussi au bon moment, donc en 1928, c'est-à-dire en plein milieu de l'existence de la Première République de Tchécoslovaquie. Contrairement à Bartok, cette aventure de 20 ans, en gros, de 1918-19 jusqu'en 39, a duré 20 ans, et Janáček était très très attaché à ses racines. D'ailleurs, une des choses qu'on n'a pas dites pour Bartok, mais qu'on peut dire pour Janáček, c'est que l'un comme l'autre ont fait des campagnes de récolte de chants populaires. Ils partaient dans la campagne, et à noter, Bartok a même utilisé les premiers rouleaux d'enregistrement et ils ont constitué tous les deux une base de données extraordinairement riche et ils les ont utilisés à leur manière pour créer ce qu'on a coutume d'appeler un folklore imaginaire qu'ils ont recréé avec leur talent musical. Il y a donc une chose très étonnante avec Yenoufa, donc cet opéra qui a été créé d'abord à Brno, donc cette ville de Moravie, puisque Janáček était né dans un petit village comme Bartok, un petit village de Moravie qui est à l'est de la République tchèque. Et il était ensuite allé dans des villes comme Brno, ensuite Ostrava, puis Prague. Et c'était au départ donc un campagnard. Il est issu d'une famille, son père était instituteur et organiste, et il avait bien pris le chemin de son chemin pour faire comme lui pendant plusieurs années, avant que précisément le succès de Yenoufa, très tardif, puisqu'il a été monté, l'opéra a été monté à Brno donc en 1904, et seulement en 1916 à Prague, et c'est véritablement là que ce compositeur est devenu, est passé sur le devant de la scène, a été jugé à sa juste valeur. Donc à ce moment-là, il avait déjà quand même 62 ans. Il se trouve que ça a été une sorte de déblocage très très grand pour lui, et s'en sont suivis toute une quantité de chefs-d'œuvre, de grands chefs-d'œuvre. Alors que la carrière de Janáček ne le dessinait pas forcément à l'opéra, il s'est mis à écrire plusieurs opéras qui se sont tous être révélés des chefs-d'œuvre. Bon, La Petite Renarde Rusée, Katia Kabanova, La Maison des Morts, et aussi de la musique de chambre, et puis quelques œuvres d'orchestre et de magnifiques messes glagolitiques. Alors Yenoufa, effectivement, c'est aussi une histoire peut-être pas aussi... aussi sombre que celle du scénario du Mandarin Merveilleux, mais qui prend son origine dans le réalisme vraiment de la fin du 19e siècle. L'origine de la pièce vient d'une femme, une auteure tchèque, Gabriela Prajsová, qui a écrit des nouvelles que Janáček a refondues, et il a écrit le livret lui-même, donc un opéra en trois actes.
L'histoire d'infanticide.
Voilà, une histoire d'infanticide, une histoire d'une famille très compliquée avec un personnage extrêmement fort dramatiquement, qui est le personnage de la belle-mère, Kostelnička, qui est aussi la sacristine, qui tire un peu toutes les ficelles, mais qui finit par être broyée elle-même par la folie du geste qu'elle a dû commettre pour sauver les apparences sociales, en fait. C'est-à-dire que Janáček décrit tout ce milieu, avec effectivement le milieu d'un moulin montagnard, et puis toute la petite société avec l'amoureux qui doit partir à la guerre puis qui finalement n'est pas enrôlé, le jaloux qui est son demi-frère et qui finit par mutiler la belle Yenoufa, et puis la belle-mère qui devient folle à l'idée que son honneur soit souillé, donc qui a des gestes absolument dramatiques. Donc une œuvre vraiment magnifique à recommander. On avait eu la chance de la jouer dans de très bonnes conditions avec Irgi Kohout en 2004, avec une très belle distribution dans une mise en scène de Nicolas Joël. Et nous nous réjouissions vraiment beaucoup de la rejouer.
Mais reprendre. Ça... Bah, oui, c'est Sarchosi, j'allais vous poser la question. Oui. Donc c'est 2004 la dernière représentation à Toulouse.
Et puis c'était la production de Nicolas Joël qui devait être reprise.
C'est ça.
D'ailleurs cette année, donc on peut vraiment le regretter amèrement.
Peut-être espérer
on peut espérer qu'elle sera reprogrammée les prochaines saisons. Oui, alors peut-être pas la prochaine, mais puisqu'elle était déjà arrêtée celle-ci.
Oui, oui.
Peut-être dans les 2-3 ans qui viennent. Espérons qu'on retrouve.
On peut le souhaiter, d'autant plus que, quand même, sur le plan de la structure de l'opéra, la structure musicale de l'opéra, c'est incroyable. Sur le plan de l'adaptation de la parole à la musique, voilà ce que disait Janáček. L'essentiel dans une œuvre dramatique est de créer une mélodie du parler derrière laquelle apparaisse, comme par miracle, un être humain placé dans une phase concrète de sa vie. C'est tout à fait ça. L'adaptation à la langue est formidable, incroyable. Donc il faut vraiment l'écouter en langue originale.
Oui, absolument. Et c'est curieux parce qu'on voit encore des productions en allemand parfois, récemment. Bon, je pense qu'à l'Opéra de Paris, donc, j'avais assisté en 80 ou 81 à la version en français. Et puis en 88, là, on s'est mis à jouer Janáček en tchèque. Il y a eu Katia et puis La Maison des Morts la même année. Et puis ensuite, c'est venu très très régulièrement. Ce qui est très intéressant dans le cas des deux compositeurs dont nous avons parlé, Bartók et Janáček, c'est malgré les influences, ils ont tous les deux eu des influences importantes. Bartók a même été un tout petit peu étudié à Vienne, Janáček aussi, mais avec peu d'intérêt véritablement. Leur personnalité, une personnalité musicale très très forte, s'est exprimée à partir de 30 ans pour Bartók et un peu plus tardivement pour Janáček, mais ils ont tous les deux un univers très très personnel. C'est toujours très agréable, c'est une sonorité très très personnelle.
Eh bien, on va donner un aperçu de Yenoufa et de la musique de Janáček en écoutant un extrait de son opéra, le très beau Salve Regina de l'acte 2. Le Salve Regina de l'acte 2 de Yenoufa, l'opéra de Léo Janáček, qui devait être donné au Théâtre du Capitole ces jours-ci. Peut-être sera-t-il reprogrammé lors des prochaines saisons. On peut en tout cas l'espérer parce que l'œuvre de Janáček le mérite, parce que sa musique le mérite. Et vous me disiez, Serge Krichevski, en écoutant cet extrait, quel merveilleux orchestrateur.
Oui, effectivement, ça fait partie des choses qu'on apprécie toujours comme instrumentiste et comme auditeur. Hein, l'idée, voilà, le timbre qui est là toujours pour accompagner un sentiment, pour accompagner un personnage. Et donc, ce que disait tout à l'heure Serge Chosy pour la clarinette du mandarin merveilleux, eh ben, il y a un phénomène similaire dans Yenoufa qui commence par un solo de xylophone, c'est une note répétée qui figure la roue du moulin qui tourne. Et voilà, et c'est un repère comme ça musical qu'on a, sonore qu'on a, qu'on retrouve plusieurs fois dans l'opéra. Bon, là, on entendait le violon solo vraiment déchirant qui est avec le moment où Yenoufa a cette prière.
Sublime. Ouais. Alors, Serge Chosy, vous me disiez aussi, on pourra peut-être citer les autres grandes œuvres de Janáček qu'il faut absolument connaître.
Oui, bon, il y en a une qui est peut-être l'œuvre la plus souvent jouée, c'est sa Sinfonietta, qui n'a rien de diminué d'ailleurs. C'est un diminutif, petite symphonie, mais qui est consistante, qui est une grande œuvre. Ou encore le poème symphonique Taras Bulba, qui sont des merveilles d'orchestration symphonique. Et puis dans sa musique de chambre, il y a ces deux quatuors qui sont des pures merveilles. L'un qui s'appelle Lettres intimes et l'autre qui a d'ailleurs été donné aux clés de Saint-Pierre avant le confinement, qui s'appelle la Sonate à Kreutzer en relation avec l'œuvre de Beethoven, évidemment. Des œuvres pour piano, qui sont des merveilles aussi, notamment sur un sentier recouvert, ou l'œuvre qui évoque une manifestation le 1er octobre 1905, ou encore Dans les brumes. Alors ce sont des œuvres dans lesquelles le piano est traité presque comme un orchestre. Hein. Ce sont des œuvres magnifiques qu'il faut réécouter encore.
Alors après la musique orchestrale et l'opéra, eh bien place maintenant à la musique de chambre. On parlait de la musique de chambre de Janáček, et vous parliez des clés de Saint-Pierre. Il devait y avoir un concert des musiciens des clés de Saint-Pierre. Il était prévu le 27 avril. Dessine-moi un concert, c'était le titre. Je précise d'emblée qu'il a été reporté au 11 septembre. Donc celui-là, vous pourrez le voir. Vous pouvez le noter d'ores et déjà. Serge Chosy, qui sont les musiciens, les œuvres et la dessinatrice au programme de cette soirée? Là encore, très original à tout point de vue.
Oui, alors les interprètes sont ce qui constitue un quintet avant, avec la flûtiste Florence Fourcassier, le hoboïste Louis Séguin, la clarinettiste Floriane Tardy, la bassoniste Estelle Richard et le corniste Benoît Huy. Voilà donc les cinq musiciens de l'orchestre qui devaient, et qui vont, heureusement, jouer un programme tout à fait original, qu'il faut saluer, uniquement des musiciens du XXe siècle, des compositeurs du XXe siècle, avec Malcolm Arnold, Luciano Berio, Samuel Barber et Gheorghi Ligeti. Donc vraiment, quatre compositeurs extrêmement importants du XXe siècle, mais chacun avec sa personnalité. Il n'y a aucune uniformité là-dedans. Donc on est vraiment heureux que ce programme ne soit pas disparu, mais nous revienne le 11 septembre prochain, un vendredi d'ailleurs. Et donc, on est très heureux de tout ça. La plasticienne...
Voilà, dessine-moi un concert, il y a une dessinatrice.
Et oui, une dessinatrice qui s'appelle Sandrine Foller, également un vidéaste qui était programmé, qui s'appelle Jonas Lopez. Et j'espère que nous aurons leur participation également au programme de la reprise dessinatrice de ce concert.
Voilà, donc la dessinatrice va dessiner en direct, oui, en écoutant la musique, en s'inspirant, ou plutôt en étant inspirée par les morceaux qu'elle va entendre. Et donc, elle sera filmée par le vidéaste Jonas Lopez, mmh, et le public pourra assister en direct, bah, ouais, à la création. Alors, c'est pas le mystère Picasso de Clouseau, mais presque, non, mais... presque, en musique en plus.
Une belle initiative.
Ce programme, Serge Krzyzewski, peut-être un mot des compositeurs et des œuvres qui vont être jouées. Il y en a deux là, auxquelles je pense, notamment c'est le Opus Number Zoo de Luciano Berio. Oui. Ça aussi, c'est pas une œuvre qu'on entend tous les jours.
Ah non.
Non, mais en même temps, quand même, bon, comme c'est une œuvre qui inclut des éléments de théâtre musical, les quintettistes, je sais pas si on dit ça comme ça, enfin, on peut dire les musiciens qui font cette formation aiment bien, dès qu'ils peuvent exprimer un peu de fantaisie, la jouer. Bon, elle est quand même jouée. Bon, évidemment, c'est une œuvre un peu particulière, hein, puisqu'il y a tout, il y a une histoire avec des animaux qui sont représentés en correspondance avec les instruments.
Oui, alors notamment, on peut peut-être signaler, il y a quatre mouvements, hein. Les quatre mouvements, là, en traduction française, c'est d'une part le bal champêtre, l'autre le cheval, puis la souris grise et enfin les chats. Donc vous voyez, chaque mouvement a sa caractéristique particulière.
Et puis donc il y a un morceau de Samuel Barber, Summer Music, compositeur, un de ces compositeurs qui a le malheur de n'être connu que pour une seule de ses œuvres, son fameux Adagio, mm-hmm, qui extrait d'un
quatuor à cordes. Mouvement lent d'un quatuor.
Mouvement lent d'un quatuor à cordes. Donc on découvrira ce morceau, la Summer Music. Oui. Et puis les six bagatelles de Gheorghi Ligeti. Alors moi je les ai jamais entendues en concert. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion.
Si je ne me souviens bien, le premier concert des Clés de Saint-Pierre en 2000,
oui. Ah oui.
Je faisais partie de la bande qui a joué donc les six bagatelles, qui sont, elles font vraiment partie des classiques du quintet avant. Hein. C'est une œuvre étonnante parce que, en fait, c'est 6 des 10 pièces que Ligeti a écrites pour piano seul, je crois, ou à deux mains. La Musica Ricercata, donc, dans lequel bon, il développe une idée à partir d'abord d'un intervalle, hein, un intervalle d'un demi-ton, d'un ton, etc. Donc, il y en a 10 ou 12, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il en a orchestré 6 pour quintet avant. Et elles mettent très, très bien en valeur tous les instruments. C'est passionnant, c'est très vif et très... Donc, grand successeur de Bartok, hein, on peut dire, Ligeti.
Ah, tout à fait, oui, oui. Et alors, paradoxalement, elle a été qualifiée de Ligeti préhistorique. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, je ne sais pas par qui, oui.
Oui, donc c'est amusant.
Mais... Ouais, c'est parce que c'est la période de formation de Ligeti où il est encore sous la...
Ça doit être ça.
Probablement, bon. Pour étudier sa biographie. Alors, bon, pour illustrer...
En tout cas, oui, c'est une œuvre de jeunesse, en tout cas. Ouais.
Alors, pour illustrer le programme de ce concert, nous allons écouter justement ce compositeur originaire d'Europe centrale, lui aussi, né en Roumanie, mais de nationalité hongroise, puis naturalisé autrichien, Gheorghi Ligeti. Voici une de ses 6 bagatelles, l'Allegro con Spirito. Allegro con Spirito, la première des 6 bagatelles de Gheorghi Ligeti. Là, il s'agissait d'une version quatuor de saxophone. Cette œuvre est au programme de Dessine-moi un concert, qui devait avoir lieu le 27 avril et qui est reporté au vendredi 11 septembre à 20h. Ce sera un vendredi. D'habitude, c'est le lundi, les Clés de Saint-Pierre. Là, ce sera un vendredi, notez-le bien, à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le premier rendez-vous de cette saison 2021 des Clés. Maintenant, un concert d'une autre saison toulousaine, les grands interprètes. Il devait avoir lieu le 19 mai et il réunissait Philippe Jarouski et l'ensemble Artaserse. Ce concert a été reporté lui aussi et ce sera le 16 novembre, à l'Allograin bien sûr. Le programme sera peut-être un peu modifié, mais toujours est-il que le 19 mai, le contre-ténor français devait interpréter un programme très dense. On retrouvait des œuvres de deux des grands compositeurs de la fin du baroque, Serchosi, qui sont ces deux compositeurs. Là, c'est compositeur qui pèse. Hein.
Là, c'est du solide, évidemment, puisqu'il s'agit à la fois de Vivaldi et de Handel. Alors, de Vivaldi, Philippe Jarouski devait chanter quelques airs d'extrait, notamment une cantate pour alto, Cessate mai cessate, qu'on entend assez souvent. C'est une œuvre tout de même assez célèbre. Et puis plusieurs airs d'opéra, extraits notamment de l'Olympiade, surtout de l'Olympiade d'ailleurs, de Vivaldi, avec quelques œuvres instrumentales pour lui permettre de se reposer, puisqu'il y aura beaucoup de virtuosité vocale dans ce concert. Il y avait, mais il y aura aussi, j'imagine, dans le concert reporté, puisqu'il y aura peut-être des changements de programme. Et pour Handel, alors là aussi, il y a à la fois des extraits de Jules César. Il y avait quand même prévu un concerto grosso, opus 6 numéro 4, et puis des extraits d'autres opéras comme Il Parnasso ou Radamisto, des grands classiques dans un répertoire qui convient très bien à Philippe Jarouski, puisque c'est un peu spécialisé dans cette période-là. Oui, oui. Et il avoue dans des interviews qu'il adore les airs pyrotechniques, il aime bien, ça le stimule, il sent ça très bien, mais tout autant les airs méditatifs et plus calmes. Disons. C'est un personnage attachant, Philippe Jarouski. Et donc, on espère le revoir. Vraiment, ce serait dommage de ne pas le revoir.
Oui, mais de toute façon, donc c'est bien programmé le 7 novembre. Alors, le seul risque, c'est que d'ici là, malheureusement, on ne puisse toujours pas, ou qu'il y ait un nouvel épisode pandémique et qu'on ne puisse pas aller dans les salles de 2000 personnes, comme c'est le cas de la Lograin. Mais Philippe Jarouski, c'est un chanteur qu'on voit très souvent à Toulouse depuis presque tous les ans. Ou aux grands interprètes, il s'est produit au Dissud aussi, il peut se produire dans les festivals de la région.
Oui, donc lui, Renaissance aussi.
Voilà, on parlait... Oui, je crois qu'il a d'ailleurs son premier concert à Toulouse, c'était aux Arts Renaissants.
Oui, exactement. Et puis au cours d'un autre concert des Arts Renaissants, il avait chanté par contre un programme de mélodies françaises du 19e siècle. Oui. Et donc, il ne se contente pas de chanter les répertoires des castrats de la grande époque baroque.
Oui, il y a des CD de mélodies françaises de Philippe Jarouski, accompagné, je crois, par Jérôme Ducrot au piano, en règle générale. Qu'est-ce que vous pensez de l'orientation, le travail qu'il a fait sur sa voix depuis quelques années? Parce qu'elle a changé, la voix de Jarouski.
Elle s'est quand même agrandie, parce que, comme il le dit lui-même, et il le reconnaît lui-même, au début, il avait une toute petite voix. Très légère. Et donc, comme il aime beaucoup jouer sur scène en même temps, et c'est un excellent acteur, notamment il a donné le couronnement de Popée, il chante le rôle de Néron. Et donc, il chante avec beaucoup, beaucoup d'ardeur et beaucoup de talent dramatique. Et donc, sa voix s'est agrandie, effectivement, et sa projection s'est accrue, donc, par rapport à la petite voix légère qu'il avait au début. Alors, évidemment, le timbre...
C'est ce que j'allais dire, le timbre...
Le timbre s'est modifié, il n'est plus aussi... Au début, on parlait de la voix de l'ange. Oui. Et c'est plus tellement une voix d'ange. Il a de grandes qualités, et puis de grandes qualités expressives aussi.
Il y avait l'embarras du choix pour vous faire écouter Philippe Jarouski chanter une des pièces qu'il avait mises au programme de son concert du 19 mai. Eh bien, j'ai choisi de l'écouter dans du Vivaldi, un extrait de l'opéra L'Olympiade, Mentre dormi amor fomenti.
Thank you.
Mentre dormi amor fomenti, extrait de l'opéra L'Olimpiade d'Antonio Vivaldi, interprété par Philippe Jaroussky et accompagné par l'ensemble Artaserse. Le contre-ténor devait se produire le 19 mai à la Lograin. Ce concert de la saison des grands interprètes est reporté au 16 novembre, au même endroit, à 20h. Nous avons ouvert ce numéro avec l'Orchestre National du Capitole. Nous allons le retrouver maintenant en évoquant le concert qu'il devait donner le 22 mai. Et pour ce concert, il n'y avait qu'une seule œuvre au programme. Il faut dire qu'elle est de taille à prendre toute la place, par sa durée bien sûr, mais aussi par sa modernité et son importance dans l'histoire de la musique de la seconde moitié du XXe siècle. Je pourrais ajouter d'ailleurs par l'importance de son compositeur. Quelle est cette œuvre et qui est ce compositeur considérable?
Olivier Messiaen, évidemment, le grand maître qui a été le professeur de tant de compositeurs, notamment Boulez d'ailleurs, et donc un grand compositeur, et l'œuvre c'est la Tourangelle, la symphonie pour piano solo, Onde Martenot, et un très grand orchestre donc, qui a été composé entre 1946 et 48, qui a été commandé en 1945 par Serge Koussevitzky, qui était le directeur de l'Orchestre symphonique de Boston, et qui a été créé là, en 49, sous la direction de Leonard Bernstein, tout de même. Donc, alors c'est une œuvre stupéfiante, hein, une œuvre complètement unique. Hein. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le titre quand même, puisque oui. Messiaen lui-même a dit que le titre de la symphonie venait de deux mots en sanskrit.
Du sanskrit, oui.
Turanga et lila, lié, et que la traduction pourrait être chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, rythme, vie et mort. Et il a écrit ailleurs que ce mot ne signifie absolument rien, mais qu'il l'avait choisi simplement pour sa sonorité et sa couleur. Donc on ne sait pas, comme je ne suis pas du tout expert en sanskrit, s'il y en a parmi nous qui...
J'ai beaucoup étudié, mais j'ai tout oublié.
Ah, d'accord.
C'est pas de chance.
Donc on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que l'expression... Il avait même indiqué la manière de le prononcer. Je me souviens de l'avoir entendu à la radio, où il disait qu'il faut dire « Tulangelil ». Voilà, c'est d'après Messiaen. Et donc, c'est vraiment une œuvre extrêmement moderne hein, pour l'époque. Hein. Et donc, elle a été créée en France, à Aix-en-Provence, en 1950, et sous la direction de Roger Desormières, à la tête de l'Orchestre National de France à l'époque. Alors, c'est une œuvre incroyable et qui utilise un instrument qui était rare à l'époque.
J'allais vous poser la question.
Eh ben oui.
Et les auditeurs doivent se la poser aussi.
Les ondes Martenot.
Les ondes Martenot. Et c'est Martenot avec une majuscule.
Ah oui,
il y a une raison. Il y a une raison.
Ah ben parce que le créateur, Monsieur Martenot, était un ingénieur et c'est lui qui l'a inventé. C'est l'un des plus anciens instruments de musique électronique monodique. Instrument monodique hein, et conçu quand même à partir de 1918. La conception était déjà ancienne. Hein. Alors c'est un instrument incroyable et qui a été utilisé pas simplement en musique symphonique ou en musique classique, mais qui a été utilisé, par exemple, Ne me quitte pas de Jacques Brel, il y a l'onde Martenot qui est dedans, et dans une chanson d'Édith Piaf, il y a également l'onde Martenot, donc c'est vraiment très particulier comme instrument. Alors un instrument monodique, mais qui se joue avec un clavier, et puis une espèce d'anneau et un lien qui court, et on peut faire des glissandis. Donc c'est tout à fait... Et
ce sont des pianistes en général qui deviennent oui. ondistes. On dit ondistes. Hein.
Mais... Il y avait une classe d'onde Martenot au Conservatoire de Paris, je ne sais pas si elle existe toujours, mais c'est un instrument qui dans les années... je crois que la belle-sœur de Messiaen a été une grande ondiste. Jeanne Loriot, c'était la pianiste. Voilà. Et Yvonne Loriot, enfin l'une des deux, était ondiste. Mais c'est un instrument quand même dans les années 30-40 qui a eu pas mal de littérature. Hein. Il était peut-être plus pratiqué que maintenant. Il y a des pièces de Darius Milhaud. Il y a même une pièce de...
Il y a une mode aussi à ce moment-là.
Il y a aussi une œuvre de Martinou, le compositeur tchèque, cette œuvre.
Martinou qui utilise Martenot.
Voilà, c'est ça, exactement. Oui.
Là aussi, ça donne des histoires de sonorité.
Oui.
Mais d'ailleurs, à la création, c'est Ginette Martenot, je crois, qui...
Oui, exactement, qui tenait la partie de Martenot. Ouais. Oui. Oui, exactement. Donc... C'est vraiment une œuvre formidable, mais paradoxalement qui a été pas mal jouée à Toulouse par divers orchestres. Alors, en février 2007, c'était donc l'Orchestre National du Capitole, qui était dirigé par Ilan Volkov, et avec comme pianiste Roger Muraro, qui est d'ailleurs celui qui devait venir
le 22 mai.
Et l'ondiste était Thomas Bloch. Donc voilà pour la première exécution récente de cette œuvre. Ensuite, en 2014, c'était l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, sous la direction de Paul Daniel, qui est venu jouer cette œuvre. Et le pianiste était Bertrand Chamaillou, et avec l'ondiste Cynthia Millar, qui était celle qui devait le jouer cette fois, donc aussi. Ensuite, également en 2014, en décembre, c'était l'orchestre du Festival de Budapest, sous la direction d'Ivan Fischer. Et c'était aussi Roger Muraro au piano qui devait le jouer, et l'ondiste était Valérie Hartmann-Clavery. Et enfin, la dernière fois qu'on l'avait donné, c'était le 8 janvier 2016, et c'était l'orchestre symphonique Simon Bolivar de Venezuela, sous la direction de Gustavo Dudamel. Avec comme pianiste Yuya Wang, et à Londo Martenot, Cynthia Millar, de nouveau.
Bah, donc, oui, elle ne doit pas être beaucoup à jouer non, les Londo Martenot.
Hein, non, non, elle, c'est une spécialiste. Hein.
Alors ça, vous l'avez joué, vous, en 2007.
Oui, je l'ai joué. Bon, c'est une œuvre, effectivement... passionnante, très 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 difficile, très longue, en 10 mouvements, donc de nature complètement différente, diverse. Il y a des moments telluriques, il y a des moments de très grande lenteur, de voilà, un temps suspendu. Il y a des moments très dansants également. Alors il faut dire que le piano et Londo Martenot sont pas véritablement traités comme des solistes, hein. Ils sont inclus quand même à la masse orchestrale, et bon, ils dialoguent avec tous les bois. Enfin, l'orchestre, bon, est très important. Il est moins important que ce que Messiaen utilisera après pour son opéra Saint-François d'Assise, mais c'est surtout les percussions, hein, aussi, beaucoup de percussions. Bon, Messiaen, évidemment, avant ça, il y a le Quatuor pour la fin du temps, qu'il a beaucoup fait connaître, et puis il faut dire que la symphonie Turangalila fait partie d'un cycle de 3 œuvres autour de Tristan et Isolde, donc qui ont beaucoup inspiré Messiaen dans ces années-là.
C'est l'inspiration de Turangalila.
Et donc Turangalila, c'est la partie centrale du triptyque. Donc Messiaen a été très intéressé déjà dès les années 30 par la rythmique hindoue. Il a beaucoup utilisé des rythmes et des modes effectivement, des gammes qui viennent de l'écriture des modes hindous. Donc forcément, les percussions, les gammes lentes ou les orchestres de métallophones, etc., ont été également inclus à son œuvre dans la Turangalila et bien après également. Parce que vous parliez deuxième partie du XXe siècle, mais là, oui, on est pile à la jonction, puisqu'elle est créée en France en 1950.
Derrière, ouais.
Mais c'est vrai qu'on a d'un côté Yenoufa 1904.
J'aurais dû dire après-guerre.
Voilà. 1904, Yenoufa, et 1949-50, la Turangalila.
Ah, vous vouliez ajouter
Simplement rappeler que les 10 mouvements ont des titres tout à fait incroyables, hein, des titres magnifiques, avec Chant d'amour, Joie du sang des étoiles, Jardin du sommeil d'amour, Développement de l'amour, enfin...
Et c'est souvent le cas chez Messiaen,
ah, tout à fait, il adore
très poétique.
Ça, oui, hein. Oui, exactement, oui.
C'est le moment d'écouter un extrait de cette Turangalila, symphonie pour piano solo, Onde, Martenot et grand orchestre d'Olivier Messiaen. Voici le 5e de ces 10 mouvements. Il est intitulé « Joie du sang des étoiles » et c'est Roger Muraro, grand défenseur de la musique de Messiaen, qui est au piano. Thank you. Joie du sang des étoiles, cinquième mouvement de la Tourangelle, la symphonie pour piano solo, ondes Martenot et grand orchestre d'Olivier Messiaen, avec Roger Muraro au piano. Eh bien, j'espère que cette œuvre sera reprogrammée rapidement dans la saison de l'Orchestre du Capitole, parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être découverte en concert. Je voulais terminer cette émission par un hommage à un grand chanteur, un grand baryton dont nous avons appris la mort mercredi. Gabriel Baquier a tiré sa révérence à quelques jours de son 96e anniversaire. Une longue vie bien remplie et une superbe carrière. Est-ce que vous avez eu la chance de l'entendre sur scène l'un et l'autre ?
Oui, pour ma part, oui, je l'ai entendu assez souvent sur la scène du Théâtre du Capitole, hein, notamment dans Don Giovanni, dans le rôle-titre, mais également dans Les Porello, qu'il a chanté. Puis il est venu également chanter dans Boris Godounov, le rôle-titre, et également dans d'autres œuvres. Hein. Il est venu assez souvent à Toulouse. Hein. Il aimait bien venir à Toulouse.
Bon, il était presque proche. Voisin, parce qu'il est originaire de Béziers. D'ailleurs, Béziers, il est mort, il était dans l'Hérault ces dernières années.
Ah oui, tout à fait. Non, mais c'était de Scarpia qu'il a chanté aussi souvent.
Oui, beaucoup.
Donc, c'est vraiment un grand chanteur. Un personnage incroyable.
Oui, parce que vous avez eu la chance, de dîner ou de déjeuner à ses côtés.
Oui, exactement.
Et c'était pas triste, apparemment.
Ah non, il était pas triste. Hein. Il avait des anecdotes toujours croustillantes sur le monde de l'opéra. Et donc, c'était un homme formidable. Vraiment, une joie de vivre stupéfiante.
Mais j'écoutais les rôles que vous égreniez. Il a vraiment eu une palette incroyablement large. Il passait d'un répertoire à un autre.
Oui, absolument. Il chantait la mélodie aussi, magnifiquement. Oui. Donc,
grand chanteur. De la
grand chanteur
française.
Et excellente diction.
Et oui, alors ça, on va en avoir un aperçu. Vous, Serge Chéchesky, alors je crois que vous l'avez vu au Conservatoire de Toulouse.
Oui, je l'ai vu, j'ai écouté des cours de chant, mais je pense qu'on a dû jouer avec lui, il faudrait vérifier, mais Béatrice et Bénédicte avec Michel Plasson dans les années 2003 ou 4 ou 2. Il chantait encore peut-être.
Il a chanté tard,
donc en plus c'était un rôle, peut-être le rôle du maître de musique, donc très avec une part théâtrale, donc c'était très, très probablement ça, effectivement. Peut-être aussi Scarpia, mais c'est plus très sûr. Mais en tout cas, oui, je l'ai entendu au disque beaucoup, enfin, très grande personnalité. Et puis les mélodies de Sévrac, effectivement.
De Forêt, oui. De Poulenc,
de
Satie. Non, mais vraiment répertoire très très large. Cette voix ample, à la fois ample, souple, nuancée. Ce phrasé, puis vous le disiez, une diction extraordinaire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des chanteurs, des générations présentes qui sont capables de chanter avec une telle clarté dans la diction pour qu'on comprenne vraiment tous les mots.
C'est très rare.
Je ne suis pas certain. Hein. Oui. Mais parce que c'était
une autre époque. Il y a des gens comme Ernest Blanc aussi qui a été un très
exactement.
Grand baryton. Quand on entend Les Pêcheurs de Perles, c'est fantastique. On comprend absolument tout. Voilà, des voix de baryton.
Alors peut-être qu'on fera une émission pour rendre hommage plus longuement à Gabriel Baquier, parce que je pense qu'il le mériterait, et sa carrière le mérite aussi, pour lui rendre hommage dès maintenant, et aussi pour notre plaisir, hein, on va le réécouter dans ce répertoire de la mélodie française que vous évoquiez à l'instant, Serge Chosy. Il l'a servi et défendu avec ferveur et talent. On l'écoute ici dans une interprétation de Claire de Lune, la mélodie de Gabriel Fauré sur un poème de Paul Verlaine. De lune
faire rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau. Les grands jets
Clair de lune, mélodie de Gabriel Fauré sur un poème de Paul Verlaine, superbement chanté par Gabriel Baquier. Là, on parlait de sa diction, là, c'est l'exemple même.
C'est tout
on
à
comprend
fait
tous les mots. Oui, oui. On comprend tous les mots. Et puis, bon, bah, il y a cette voix là, magnifique. Le grand baryton basse est mort mercredi à l'âge de 95 ans et nous tenions à lui rendre hommage dans cette émission. On essaiera de le faire plus longuement dans une prochaine émission. Celle-ci, en tout cas, est terminée. Ce numéro de reprise de Mélomanie se termine. Il est temps pour moi de remercier mes amis Serge Chosy et Serge Krzyzewski d'en avoir été les brillants invités. Ravi de vous avoir retrouvés tous les deux autour de la table de ce studio. Enfin, on va croiser les doigts pour que cette pandémie disparaisse rapidement et qu'elle nous laisse enfin tranquilles pour que nous puissions retourner dans les salles de concert, pour que des festivals puissent avoir lieu cet été. C'est une question de survie pour un certain nombre d'entre eux. On sait que le secteur culturel risque d'être hélas durablement fragilisé par cette situation. Pour nos prochaines émissions, a priori les deux à venir, nous allons vous proposer des numéros entièrement consacré à Beethoven. Vous savez qu'en 2020, on célèbre le 250e anniversaire de la naissance du grand compositeur allemand, celui qu'en général on range aux côtés de Bach et Mozart pour désigner les trois génies absolus de la musique savante européenne. Tout ça est certes subjectif, hein, on peut bien sûr ajouter d'autres compositeurs à ce trio. Nous allons donc nous plonger dès la semaine prochaine dans la vie et l'œuvre de Beethoven, les deux étant liés évidemment. Nous évoquerons aussi l'influence qu'il a pu avoir sur ses contemporains et sa descendance musicale au 19e siècle, même plus tard d'ailleurs. Soyez au rendez-vous, ça devrait être passionnant, en tout cas on va tout faire pour que ça le soit. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.